C'est en ce moment la semaine de prévention du suicide. Dimanche dernier, je ne sais pas si vous étiez au poste, mais on a pu entendre le témoignage notamment de M. Taillefer à Radio-Canada, à l'émission Tout le monde en parle. Lui dont l'enfant de 12 ou 14 ans, je ne me souviens plus, a mis fin à ses jours il y a un peu plus d'un an maintenant. Alors, pour parler de la semaine de prévention du suicide et tout ce que nous pouvons faire ou ne pas faire, je m'adresse à Christine Genet, professeure adjointe en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Genet.
Bonjour à vous.
Alors, l'Institut national de santé publique a publié ses données un petit peu plus tôt cette semaine, notait un recul du suicide. Hein? Mais cela demeure quand même la deuxième cause principale de décès chez les 15-24 ans. C'est terrible. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Mme Genet?
Oui, en effet, c'est toujours intéressant de voir que les efforts qu'on fait au niveau de la prévention permettent de diminuer un peu les suicides, mais chaque suicide est important en soi et crée une détresse chez les proches, donc c'est toujours triste, même si quand il y en a juste un. Chez les 15-24 ans, spécifiquement, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est tout l'impact social aussi qu'on sent chez ces jeunes-là, l'anxiété qu'ils peuvent vivre, les performances qui sont amenées, toute l'intimidation qu'ils peuvent vivre sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être des éléments sont aussi plus difficiles à aller chercher au niveau de la prévention. Des fois, c'est pour eux, c'est dans l'immédiat, c'est maintenant la pire crise qui va leur arriver, ça va être la fin du monde. Donc, des fois, c'est ces moments-là qui sont plus charnières, mais ce n'est pas nécessairement la population qui sont le plus à risque, mais c'est ceux pour lesquels, souvent, il y a le plus d'années de vie qui sont perdues.
Quelle serait, d'après vous, la tranche de population qui serait la plus à risque?
Généralement, c'est les hommes adultes, 30 à 50 ans, là, généralement, c'est la catégorie qu'on dit qui sont les plus à risque de se suicider. Donc, c'est souvent cette population-là qui est la plus à risque. Reste que les jeunes, c'est souvent ceux qu'on entend le plus parler. Les personnes âgées, souvent, qu'on n'entend pas parler, mais qui sont eux aussi à risque de suicide.
Bon, évidemment, on s'interroge toujours et il est bon de se le faire rappeler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider une personne que l'on suppose être suicidaire? Parce que le problème souvent, c'est que ces gens-là ne communiquent pas.
Non, c'est ça. Et moi, je travaille beaucoup, surtout aussi au niveau de la postvention chez les endeuillés par suicide. Et ce que je voudrais dire comme message beaucoup, c'est de ne pas se culpabiliser. Parce que souvent, on a le message de dire, bon, on aurait pu le voir, on aurait pu le prévenir, mais souvent, ça l'arrive, puis il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Il ne faut pas se sentir coupable de ça. Mais des fois, il y a des signes. Comme M. Taillefer, j'entendais hier à la radio, ce qu'il disait aussi, c'est qu'à un moment donné, le jeune commence à mieux aller, puis on se dit, ah, ben enfin, on est sur la bonne voie. Mais souvent, c'est un signe très curseur que pour lui, la décision est prise. Oh. Puis maintenant, il est serein avec sa décision. Donc, il faut faire attention avec un jeune qui ne va pas bien puis qui, du jour au lendemain, se met à aller mieux. À ce moment-là, c'est peut-être avoir des petites antennes pour mieux dépister. Aussi, chez des gens qui vont commencer à se débarrasser de leurs choses, à laisser aller des choses auxquelles ils tiennent beaucoup. Des fois, ça peut être des symptômes. Et dès qu'on sent que quelqu'un ne va pas bien, c'est d'en parler. C'est d'ouvrir la discussion, d'en parler, de ne pas avoir peur d'aborder le sujet, puis d'aller
chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut carrément poser la question à quelqu'un?
Ah oui, oui.
Est-ce que tu penses à mourir? Est-ce que tu penses à...
Bon. Ah oui, c'est important de poser la question clairement, à savoir, puis de ne pas essayer de prendre des chemins. Là. C'est est-ce que tu penses à mourir? On est inquiet pour toi et tu comptes pour nous. Puis de poser la question clairement, puis la personne va nous répondre à ce moment-là. Devrait essayer en tout cas, puis au moins ça va ouvrir la discussion.
Est-ce que c'est un mythe, Madame Genet? J'ai souvent entendu dire que finalement les gens qui voulaient mourir, se donner la mort, n'en parlaient pas et que ceux qui disaient qu'ils y pensaient, finalement, c'est pas ceux qui pensaient à l'acte.
Non, c'est pas vrai. Il y en a, c'est sûr, qu'ils le diront pas, mais il y en a qui vont en parler, qui vont le dire, et c'est pas vrai. Faut toutes les gens qui en parlent, faut le prendre au sérieux. Quelqu'un qui va parler, qui veut mourir, même si c'était pas nécessairement dans l'intention de mourir, il y a une souffrance qui nous exprime à ce moment-là.
Oui.
Donc, c'est d'être à l'écoute de cette souffrance-là, puis de pas prendre ça à la légère, c'est vraiment très important.
Mais quand vous parlez de ne pas se sentir coupable, écoutez, je n'ai jamais vécu cette situation-là, mais j'ai déjà eu auprès de moi une famille bouleversée par le suicide de leur fils.
Oui.
Et la culpabilité, je veux dire, ça a été l'horreur pendant... Ça a duré parce que on a l'impression... Je veux dire, ça peut se comprendre que les parents, voilà, se sentent coupables. C'est ça que je voudrais...
Oui, c'est tout à fait normal. C'est une émotion qui va être vécue de façon générale moi, j'ai rencontré beaucoup d'endeuillés, puis c'est ce qu'ils nous disent. Ils vont vivre de la culpabilité, de la honte, de la stigmatisation, du déni, de la colère. Mais c'est juste que dans les propos, puis dans le discours social, c'est juste de ne pas entretenir cette
D'accord.
culpabilité-là encore plus en disant, ben vous auriez dû le voir.
Quelles sont les meilleures ressources disponibles pour des parents qui sentent que peut-être leur enfant serait au bord du gouffre?
Tout d'abord, il y a toujours la ligne d'écoute, la ligne d'appel qu'on peut utiliser, le 1-866-APPEL, qui est la première ligne qu'on peut utiliser. Il y a aussi, dans différentes régions, il y a des centres de prévention du suicide qui peuvent offrir des services, autant en prévention, mais aussi chez les gens qui sont endeuillés. Ça peut être des services qui sont offerts. Dans la région de Montréal, on a Suicide Action Montréal qui offre des services. Puis quand on est trop inquiet puis qu'on pense qu'il y a un danger immédiat, ben c'est l'urgence à ce moment-là. Faut pas attendre.
Je trouve ça, en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler du fait, attention, soyez vigilants si l'enfant ou votre proche, en tout cas, ou l'adulte, finalement, va mieux. Écoutez, je vais vous poser une question qui était peut-être pas prévue en tant que telle, je sais
on
pas,
va
qui va peut-être... On va essayer. C'est que souvent, on en veut aussi. J'ai déjà vu ça autour, on a tous vu ça autour de nous ou dans des documentaires, c'est que finalement, on en veut aussi aux gens qui passent à l'acte et qui ne laissent rien derrière eux.
Oui.
Aucune explication.
Oui.
Est-ce qu'on sait, au moment où la personne passe à l'acte, Mme Genet, son état d'esprit n'est-il pas complètement déjà déconnecté de la vie? Je veux dire, je me fous de ce qui va se passer derrière, pas dans le sens conscient du terme. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà partis?
Généralement, quand ils ont rendu, qu'ils ont pris leur décision, généralement, ils vont avoir sous-pesé les pour et les contre. Bon, il y en a certains que ça va être de façon impulsive, mais généralement, ils vont avoir sous-pesé les pour et les contre. Je dirais que il y en a qui laissent des lettres. Et c'est pas nécessairement toujours plus... pour certains, c'est apaisant, ces lettres-là, parce que ça donne des réponses, au moins de savoir que ils n'étaient pas en colère contre nous, tout ça. Mais il y en a pour certains que ça ne répond pas à toutes les questions.
C'est ça.
Puis ce qu'il faut que les endeuillés arrivent à faire ou que l'entourage arrive à faire, c'est à un certain moment donné de dire « j'aurai pas toutes les réponses à mes questions ».
Non, c'est ça.
Mais la colère est normale. Puis en même temps, ils ont toute la dualité de vivre cette colère-là, alors qu'en même temps, ils ont de la peine envers la personne qui... Fait que c'est tout un mélange d'émotions qui est parfois difficile à gérer. Il ne faut pas qu'ils s'empêchent d'aller chercher de l'aide.
Tout ça est fort intéressant, Madame Genet. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions ce matin. Mais je vous en prie, passez une bonne journée parce que rappelons quand même avant de raccrocher que 3 Québécois s'enlèvent la vie par jour. C'est beaucoup, hein?
Oui, puis merci d'en parler. Puis s'il y a des jeunes qui n'hésitent pas à appeler un 866-APPEL.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Par l'actualité régionale maintenant, élan de solidarité envers les familles des victimes à Québec. C'est d'après un papier de Marie-Pascale Fortier dans Québec Hebdo. Mercredi matin, Normand Morneau s'est présenté au Centre culturel islamique de Québec, chéquier en main, pour offrir un soutien financier aux familles des victimes qui vivent actuellement un drame sans nom, un geste qui a grandement touché le vice-président du centre. « J'aimerais que les gens manifestent de la sympathie à l'endroit des familles qui ont été affectées, à simplement laisser tomber M. Morneau. Les moyens ne sont pas illimités, mais je l'ai fait dans la mesure de ce que je pouvais faire », a-t-il ajouté. Le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, était très touché et ému par le geste de M. Morneau. « Les dons sont très importants pour la communauté parce qu'on a des besoins financiers pour les familles des victimes. On ne voudrait pas qu'il manque de quoi que ce soit », a-t-il confié par la suite, la voix chargée d'émotion. Il souligne le fait que certains blessés qui se trouvent toujours à l'hôpital en sortiront peut-être handicapés pour le reste de leur vie et qu'ils auront besoin d'un grand soutien financier. Outre les besoins financiers des familles, la mosquée devra également être remise en ordre pour sa réouverture comme lieu de culte. « C'est une urgence », affirme M. Labidi. « On a besoin d'argent pour refaire les tapis et faire le nettoyage ». D'autre part, mercredi, le Fonds humanitaire des métallos, le FHM, syndicat qui représente notamment les chauffeurs de taxi, a joint sa voix à l'élan de solidarité. Le regroupement a offert un don de 5 000 $ pour aider les victimes de l'attentat. Les métallos tiennent à exprimer leur solidarité avec les membres de la communauté musulmane éprouvés par la tragédie. « Nous partageons leur peine et sommes à leur côté en cette période difficile », a déclaré le président du FHM et directeur canadien du syndicat des métallos, Ken Newman. Le don sera versé au fonds dédiée à l'appui aux familles des victimes de l'attentat. C'était un texte écrit en collaboration de Mathieu Turgeon. Dans Ici, Mauricie, centre du Québec, on peut lire qu'un résident de la maison Grandiose en compagnie... La maison Grandiose, qui vient en aide, voilà, ça va aller beaucoup mieux là, qui vient en aide aux familles de personnes handicapées à Trois-Rivières, sera agrandie, rénovée, grâce à des étudiants de l'école d'entrepreneurship de Beauce. L'initiative vient d'Isabelle Côté, qui est une entrepreneure de la région et qui suit ce programme. Isabelle Côté a eu l'idée de donner un coup de pouce à cet organisme situé dans le secteur Cap de la Madeleine, car elle passe régulièrement devant en faisant son trajet de course. Je regardais la maison et je me disais, il me semble qu'elle aurait besoin d'un peu d'amour, raconte-t-elle. Cet organisme qui a failli fermer ses portes il y a 2 ans, faute de subvention, ça va régler tous nos problèmes, de dire Alexandra Carvajal-Séguin, qui est la coordonnatrice de la maison. Il faut dire aussi qu'un cocktail et un encan silencieux au profit de la maison Grandiose ont d'ailleurs eu lieu à Trois-Rivières lundi soir. Les responsables du projet cherchent aussi des entrepreneurs qui seraient prêts à donner un coup de main. Et si tout se déroule comme prévu, ce projet d'agrandissement sera achevé en juin. C'était d'après les informations d'Anne-André Danou.